VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Midi à Washington, 17h à Bangui. Bonsoir à tous. En République centrafricaine, le Forum inter-centrafricain de réconciliation nationale reporté. La concertation de Bangui se tiendra finalement du 4 mai au 11 mai 2015. C'est ce qui ressort d'un décret publié aujourd'hui par la présidence de la transition. Ce report intervient officiellement en raison du calendrier du médiateur international dans la crise centrafricaine, le président congolais Denis Sassou Nguesso, qui ne pourra pas assister à ses assises à la date initiale. Et toujours en Centrafrique, le mouvement anti-Balaka dément toute participation aux enlèvements des bergers musulmans de l'ethnie Peul, dont la plupart sont des femmes et des enfants. Selon le porte-parole des anti-Balaka, Igor Béranger Lamaka, ces actes sont attribués à des bandits de grand chemin, puis a maintenu les revendications des anti-Balaka quant à leur participation au forum de Bangui. Igor Béranger Lamaka, joint par Félix Yepassi Zembrou.
Vous parlez des anti-Balaka, mais de quel anti-Balaka? Aujourd'hui, anti-Balaka n'existe pas. Depuis l'accord de cessation des hostilités qu'on a signé à Brazzaville, nous, on a respecté ça. Il n'y a pas eu de combat entre des anti-Balaka et anti-Balaka contre nos frères de l'ex-Séléka. Aujourd'hui, il n'y a même pas eu de bruni de combat entre nous. Je me pose la question de quel anti-Balaka qui est au front, qui est en train de se battre pour kidnapper les Peuls. Moi, je me pose la question, c'est des bandits des grands chemins, c'est des voyous. Tu vois, aujourd'hui, quand un centrafricain fait quelque chose, on dit que c'est un ex-anti-Balaka. Quand c'est un musulman, on dit que c'est un Séléka. Nous nous posons des questions de quel anti-Balaka. On le dit là, moi-même, je me pose la question, je ne le comprends pas.
Igor Béranger Lamaka, autre question. Maintenez-vous vos revendications quant à votre participation au forum de Bangui à venir?
Oui, certainement, oui, parce que c'est ce que nous avons déposé sur la table de la négociation lorsqu'on a discuté avec le gouvernement et la communauté internationale représentée par le G8, où il y a eu la présence de l'ambassadeur de la France et celui des États-Unis. Et beaucoup d'autres aussi étaient là ce jour, dans la salle, au niveau de la primature.
Igor Béranger Lamaka, le représentant des anti-Balaka. Le parti au pouvoir au Burundi, le CNDD-FDD, va tenir son congrès ce week-end pour décider si oui ou non il va soumettre la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat de 5 ans. Sa décision devrait être prise samedi, a dit le président du parti à l'agence Reuters. L'opposition burundaise affirme qu'une troisième candidature de Nkurunziza enfreindrait la constitution, ce que les partisans du président démentent. Le Togo s'apprête à élire son président samedi. Les Togolais ont le choix entre 5 candidats, dont le président Faure Gnassingbé qui brigue un troisième quinquennat et Jean-Pierre Fabre, le plus populaire des leaders de l'opposition. Beaucoup d'acteurs de la société civile estiment que les programmes de gouvernement proposés par les postulants ne répondent pas aux besoins du pays. Kai Lawson à Lomé.
Encore 48 heures pour les candidats à la présidentielle pour pouvoir conquérir les indécis. Depuis une dizaine de jours, les potentiels futurs présidents du Togo expliquent leur programme de société aux électeurs afin de solliciter leur voix. Pour Cyril Comelin, membre de la plateforme citoyenne, les candidats n'ont pas fait ressortir dans les projets de société leur vision pour le Togo.
La plupart des candidats n'ont pas compris le sens d'un projet de société. Il ne s'agit pas de dire que dans tel secteur nous allons régler tel problème, dans tel secteur nous allons régler tel problème, non. Je crois que l'exercice est plus élaboré, plus fin que cela. Il s'agit de dire, dans 20, dans 30 ans, notre parti veut construire tel type de Togo. Et ce mandat va nous aider à continuer ou à entamer un processus de développement réel.
Dans les projets de société, les candidats proposent de lutter contre le chômage en ayant recours aux investisseurs étrangers. Pour le syndicaliste Ayaou Bandou, la solution ne réside pas forcément dans ces investissements étrangers.
VOA Afrique, en direct de Washington.
11 personnes ont été arrêtées mardi soir à Johannesburg pour leur rôle présumé dans des violences xénophobes. Selon Reuters, c'est ce qu'a rapporté mercredi la télévision sud-africaine. Ils ont été appréhendés au cours d'une opération conjointe de la police et de l'armée dans un foyer de Johannesburg. Au moins 7 personnes ont été tuées lors des violences qui visaient les immigrés à Durban et Johannesburg. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo, dont les ressortissants sont parmi les plus touchés par les violences xénophobes en Afrique du Sud, a lancé un appel au calme ce mercredi sous la casquette du doyen du corps diplomatique accrédité dans ce pays. On écoute Bene Mpoko.
Si la situation se calme, et que l'Afrique du Sud, par la suite, envoie des émissaires, surtout dans les pays dont les ressortissants ont été les victimes de ces attaques, je crois que le continent africain va comprendre. Ils vont comprendre que d'accord, ça est arrivé, on est en train de prendre des mesures, et ils vont se poser la question de savoir comment nous, en tant que pays africain, on peut aider l'Afrique du Sud à mettre fin à cette situation. Ils ont réagi en retard, mais aujourd'hui, ils réagissent avec beaucoup d'efficacité pour éteindre le feu, pour ainsi dire.
Benin Boko, le doyen du corps diplomatique en Afrique du Sud. Reporter sans frontières se félicite de l'arrestation d'un suspect en rapport avec le meurtre du journaliste Soleil Balanga, égorgé le 16 avril à Mokoto, dans la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo. Ce journaliste de la radio communautaire Mokoto avait été attaqué alors qu'il revenait de la station. RSF réclame une enquête approfondie. Il déclare Cléa Klanschirber. Elle est responsable du bureau Afrique de l'ONG.
Donc la personne qui est responsable de cette agression est le fils du directeur de l'hôpital local. Et le journaliste avait annoncé à la radio un changement, une mutation, un changement de direction de l'hôpital qui avait été décidé par les autorités du lieu. Et voilà, et l'annonce de cette nouvelle aurait déplu apparemment au fils de ce directeur d'hôpital qui a décidé de prendre les choses en main de façon horriblement violente.
A-t-il été interpellé ?
Alors effectivement, oui, le présumé coupable a été arrêté et interpellé. On se félicite de savoir que le responsable de l'acte est en prison, mais on s'inquiète un peu quand même de voir que non seulement lui, mais en plus au total 5 personnes auraient été arrêtées, ce qui pourrait dénoter un peu un travers de la justice congolaise qui est d'arrêter massivement un tas de personnes pour montrer que quelque chose est fait, mais pas forcément en garantissant qu'une enquête approfondie et ciblée est menée.
En Guinée, 11 personnes ont été condamnées à la réclusion à perpétuité pour le meurtre en 2014 de 8 membres d'une équipe qui était chargée d'informer la population sur les risques de l'épidémie de fièvre Ebola dans une zone reculée du pays, selon l'agence Reuters. C'est ce qu'a fait savoir ce mercredi un procureur. 15 autres accusés ont été innocentés, remis en liberté. Les corps de 8 journalistes, dont 2 médecins et 3 journalistes, avaient été retrouvés en septembre à Womé, aux environs de la ville de Nzérékoré, à 1000 km au sud-est de Conakry, la capitale. Des combats étaient signalés ce mercredi entre factions rivales des troupes pro-gouvernementales sud-soudanaises dans la localité de Malakal. Selon les stations de radio locales citées par l'AFP, le combat oppose depuis mardi les forces du gouverneur du Haut-Nil, Simon Koun, aux miliciens Chelouk du général Johnson Oloni, ancien chef rebelle ayant relié Jouba à la mi-2013. Et les États-Unis ont annoncé hier avoir mis sur la liste noire 2 dirigeants du groupe islamiste somalien Al-Shabaab. On en reparle dans nos prochaines éditions.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Conflit au Yémen, le président yéménite Abdou Rabou Mansour Hadi affirme que la crise dans son pays va bientôt se terminer. La coalition arabe sunnite menée par l'Arabie saoudite a mis fin aujourd'hui à sa campagne aérienne contre les rebelles chiites houthis soutenus par l'Iran. Sur le terrain, les rebelles houthis se sont emparés aujourd'hui du quartier général d'une brigade de l'armée à Taïz, la 3e ville du pays. Les combats continuent dans le sud, non seulement à Taïz, mais aussi dans le port d'Alden. Le sommet Afrique-Asie est en cours, lui, à Jakarta. C'est en Indonésie. L'occasion pour les 30 chefs d'État de commémorer le 60e anniversaire de la conférence de Bandung, qui a jeté les bases du mouvement des non-alignés en 1955. Les participants à la réunion espèrent renforcer la coopération économique entre l'Afrique et l'Asie. Dans son discours au sommet, le leader chinois Xi Jinping a exhorté les pays riches à renoncer à poser des conditions politiques pour l'octroi de leur aide aux pays en développement. La Chine est le plus important partenaire commercial de l'Afrique et en Occident, beaucoup accusent Pékin d'ignorer les problèmes des droits de l'homme en offrant une aide inconditionnelle au régime autoritaire. Et puis, pour terminer, le pape François fera escale à Cuba sur le chemin de sa visite pontificale aux États-Unis programmée fin septembre. C'est ce qu'a annoncé le Vatican. Le pape originaire d'Argentine a participé aux négociations secrètes qui ont abouti le 17 décembre à l'annonce simultanée par le président Barack Obama et son homologue cubain d'une normalisation des relations entre Washington et La Havane. Je vous retrouve dans moins d'une heure. Jean-Roger Billon à ce micro. Merci.
Soyez au cœur de l'info